Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes au cinquième numéro, puisque nous sommes au vendredi, bien sûr, dans cette émission. Robert Olimpio, l'un des membres influents de l'ANC, a déposé sa candidature pour les sénatoriales du 15 février prochain, alors que son parti dit ne pas être associé à ces élections arrimées à la nouvelle constitution, à la 5e République, bien sûr, élu en avril dernier, conseiller régional pour le compte de l'Alliance nationale pour le changement ANC de Jean-Pierre Fabre. Robert Olimpio n'entend pas se conformer aux consignes de son parti. Robert Olimpio a déposé le lundi dernier son dossier de candidature à la CENI, qui a annoncé la publication de la liste des candidats sur ce vendredi à 15h. Selon les indiscrétions, d'autres conseillers régionaux du parti de Jean-Pierre Fabre auraient également déposé leur dossier pour être en course pour les prochaines sénatoriales. Quel sort sera réservé à ces militants et que se passe-t-il au sein du parti? Nous allons répondre à ces questions dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 10 janvier 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Akouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios en ligne qui sont nos partenaires, bien sûr, Ibn Radio et Radio Les Bénins. La Presse, vous le savez très bien, c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Et aussi, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et aussi du continent africain. Nous n'oublions pas aussi le monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes et aussi invités dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Des invités, bien sûr, et il y a Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices de Canal FM et à tous les auditeurs. Merci de m'avoir invité. Je profite en même temps pour vous présenter mes vœux de santé.
Merci.
Et de prospérité pour cette année de 2025 et à tous mes co-débatteurs que je vais te laisser le soin de présenter.
D'accord, merci beaucoup Gamin et nous te souhaitons aussi nos vœux réciproques et nous sommes très heureux de te retrouver quand même en 2025 avec assez de fougue et assez d'énergie.
Ah oui, merci beaucoup.
Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre aussi qui vient toujours avec assez de fougue et d'énergie, ça je le sais, c'est Firmin Teko Agbo. Et Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lousseau, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. Donc, je demande à ce que ce grand Dieu-là que nous servons nous donne toujours assez d'énergie et assez de fou, comme vous l'avez dit, pour pouvoir animer ces débats avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de professionnalisme. Nous profitons de cette occasion aussi pour souhaiter nos vœux les meilleurs à tous ceux-là qui nous suivent, au gouvernement, à l'ensemble de la classe qui dirige le pouvoir, à l'ensemble de la classe opposition, à tous les Togolais qui s'intéressent à la vie de ce pays, qui font leurs efforts de la façon la plus particulière pour apporter un plus au développement de ce pays. Je profite également de ce créneau pour vous souhaiter particulièrement à vous Pascal Lousseau mes meilleurs vœux à toute la maison.
Merci beaucoup.
À toute la maison Canal FM, que cette intelligence qui vous a dirigé l'année dernière, que cette intelligence vous dirige toujours, qu'elle soit beaucoup plus divine et que vous fassiez tout, vous assumez toutes vos responsabilités avec beaucoup d'objectivité et de professionnalisme.
Merci beaucoup et je pense tel que vous l'avez dit, si nous ferons justement tout avec objectivité et aussi avec professionnalisme, et ça dépendra surtout également également de vous qui êtes alors mes co-animateurs ou co-débatteurs alors dans cette émission. Merci hein, surtout de répondre à notre invitation. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous et de mener ce débat contradictoire, mener ce débat citoyen ensemble pour le bien-être alors des uns et des autres. Alors, Monsieur Kofi, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, on se retrouve encore en 2025 et là, c'est pas la grâce de Dieu vraiment.
Ah oui, sans cette grâce-là, je ne serais pas là. Je vais me joindre à mes copanalistes pour adresser mes voeux les meilleurs de santé, de prospérité, d'avancement, de progrès dans tous les domaines, à la direction de Canal FM, à tous ceux qui sont impliqués dans l'avancement de cette radio, et particulièrement à vous, Pascal Lossou, à toutes les filles et à tous les fils du Togo sur le territoire national et à l'étranger. Je prie que cette année-là soit l'année dans laquelle nous ferions mieux, beaucoup mieux que ce que nous avions fait en 2024. C'est ça ma prière pour nous tous.
Et c'est ça notre prière tous ensemble, que nous fassions ou que nous fassions bien justement mieux que l'année dernière. C'est très important. Alors, merci surtout à vous hein, d'avoir
c'est plutôt moi qui vous remercie.
Notre invitation.
Papa Pascal, si vous permettez, il a dit quelque chose d'important. Bon, qui m'a tiqué, il dit c'est ça ma prière. Il y a une chanson d'un de nos artistes, c'est ma prière.
Almok,
donc moi aussi, c'est ma prière, c'était l'une de ses meilleures chansons au début. Donc ma prière pour les artistes, c'est qu'ils aient assez de scènes cette année, parce que sans scène, sans prestation, il n'y a pas d'artiste. Il n'y a pas d'artiste qui leur permettra de pouvoir joindre le debout, ce qui leur permettra de pouvoir parfaire dans ce qu'ils feront, ce qui leur permettra de faire rayonner davantage notre pays de par le monde, ce qui est assez de scène, ce qui soit beaucoup soutenu. Et par là, nous demanderions humblement au gouvernement de mettre assez de moyens dans la culture. Ce que le chef d'État fait particulièrement cette fin d'année, moi j'ai beaucoup apprécié hein, que le fait qu'il y ait eu assez de concerts sur toute l'étendue du territoire national, c'est une manière d'encourager les artistes, c'est une manière de leur dire je suis avec vous, c'est une manière de s'intéresser à la culture parce qu'ailleurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a le président Ouattara, il y a des ministres qui soutiennent assez d'artistes, surtout dans ces genres de moments. Et je pense que le chef de l'État l'a fait. Donc, ce point, qu'on essaie d'institutionnaliser davantage cela pour que régulièrement, chaque semaine, chaque mois, dans tout le pays, qu'il y ait des scènes, quand on dit scène, par exemple, quand on dit prestation d'artistes seul, ce n'est pas seulement l'artiste qui va en profiter, c'est tous ceux-là qui participent, c'est tous ceux-là parce que c'est toute une logistique qui est mise en place, c'est la communication qui est mise en place, c'est le petit commerce, c'est le petit commerce qui sont mis en place, c'est tout le pays qui en profite. Donc moi je souhaite que la culture intéresse davantage nos autorités et que qu'il y ait beaucoup de moyens pour soutenir nos artistes.
Mais justement ce que le Firmé évoque, c'est un sujet intéressant. D'abord, c'est vrai que ces derniers temps, on voit quand même que les artistes n'ont plus assez de scènes pour s'exprimer et pour faire de leurs prestations. D'aucuns diront que, mais est-ce que c'est parce que, pour ce qui concerne la culture, au niveau de nos autorités, c'est relégué au dernier rang?
Non, je ne peux pas le dire ainsi. C'est parce que, pour moi, le pays a d'autres priorités. Et à un moment donné, bon, quand premièrement, être artiste, c'est de prendre ça comme profession et carrière. Et à un moment donné, il faut arriver à gérer sa carrière comme il le faut. Est-ce que nos artistes arrivent véritablement à gérer leur carrière comme il le faut ou bien ils sont juste là pour faire des lives sur TikTok? Et quand je parle d'artistes, il n'y a pas que des artistes chanteurs. Les artistes praticiens, aujourd'hui, beaucoup d'artistes praticiens togolais sont en train de faire des expositions dans plusieurs pays. Moi, j'ai un ami qui a fait des expositions en Chine et autres là. Donc, ce sont des artistes qui véritablement se prennent au sérieux que l'État a envie d'accompagner. Aujourd'hui, pratiquement la présidence, il y a des couloirs qui sont aménagés pour des expositions des œuvres des artistes togolais et beaucoup d'œuvres leur sont confiées depuis l'époque de Jimmy Hope avec les fresques qui sont faites sur les murs de lycée de Tocoin et autres là, même au niveau de l'aéroport et du campus universitaire de Lomé. Je
Tout
pense
que
on est en train d'accompagner beaucoup plus les artistes, mais on ne va pas aussi accompagner accompagner tout le monde. On ne peut pas faire... c'est ceux-là qui essaient de se démarquer, qui essaient de promouvoir le pays qu'on peut accompagner. Et quand nous prenons aujourd'hui les artistes comme les artistes chanteurs, hein, comme les Toufan, on ne peut pas dire que c'est l'État qui fait tout pour eux. Ce sont des artistes qui ont pris au sérieux leur travail et qui essaient de se démarquer. Et Centrino, c'est autre. Là, ils essaient de faire leur possible pour se faire démarquer. Donc, les artistes, premièrement, ils doivent faire leur pas et aussi l'État et la population va ensuite les accompagner parce que pratiquement, c'est leur boulot. Hein, certes, ils sont en train de vendre le drapeau du pays, le flambeau du pays à l'extérieur, mais tout Togolais peut aussi le faire. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux avec soi-même et prendre au sérieux son travail et sa carrière. Je pense que ça va pouvoir aller. Sinon, l'État fait déjà sa part en dégageant un budget. Je ne suis pas sûr que...
Il y a même un fonds au niveau alors du ministère
voilà,
de la Culture.
Je pense que bon, ce que l'État doit faire, l'État est en train de le faire, sauf que les artistes eux-mêmes doivent essayer de prendre au sérieux leur travail, leur carrière, et pour que ça puisse aller.
D'accord. Monsieur Kofi, est-ce que quand on écoute bien la suite alors de Gabin par rapport à cette question alors des artistes, aujourd'hui, est-ce que vous voyez quand même qu'il y a assez de talent à accompagner au Togo?
Je dirais oui, mais Pascal, je vais vous choquer. C'est vrai que la culture est un aspect important de la vie d'une nation. Mais je pense tout simplement, en fait, le gouvernement est déjà en train de faire ce qu'il faut faire. Et ces jeunes artistes ici et là sont aussi en train de faire de leur mieux. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas ça la préoccupation majeure du citoyen togolais. Nous sommes plus préoccupés par des choses plus importantes que des histoires de culture. C'est ce que moi je pense.
Mais est-ce que ça n'apporte pas quelque chose au développement aussi? Parce que il y a le dynamisme également au niveau de la culture, ça apporte certainement quelque chose.
Je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Mais un citoyen, quelque part, peut-être dans un village lointain, peut-être à Guérin-Kouka, par exemple, qui a difficilement de quoi se nourrir, qui a difficilement les moyens de se donner... trois repas par jour de nourrir sa famille. Vous pensez qu'il serait vraiment intéressé par ce genre de choses? Ce n'est pas ça la préoccupation majeure des Togolais en ce moment.
D'accord.
Non, je pense que je ne veux pas dire que, ce que M. Kofi dit est dangereux ou grave. Mais regardez.
Mais vous l'avez dit.
Mais tu l'as dit.
En tout cas, je ne l'ai pas dit. mais parce qu'en réalité, chacun vient avec son don. Il y a des gens qui sont nés pour être artistes. Lorsque vous ne les soutenez pas, ils meurent avec ce don. Il y a quelqu'un qui a dit que le meilleur endroit où vous pouvez trouver presque tous les talents, l'endroit le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Il y a beaucoup qui meurent avec les deux. Il y a des gens qui sont nés pour être artistes, pour être de grands artistes chanteurs, mais ils n'ont pas eu cette chance-là de rencontrer quelqu'un ou un État qui pourrait les soutenir, et ils sont morts avec leur talent. Par exemple, à Guérin-Kouka, par exemple, peut-être il y a des gens qui sont nés pour être artistes. Si l'occasion leur était permise, si toutes les structures, les infrastructures étaient mises en place, peut-être on aurait de grands artistes peut-être qui viendraient de Guérin-Kouka. Maintenant, il y a la deuxième chose que je voudrais faire observer. Vous savez, moi, je suis véritablement enchanté par la décentralisation. Vous savez pourquoi je m'intéresse un peu? Parce que ça permet aussi de créer de l'emploi. Regardez, ces derniers mois, on a installé les gouvernorats. Mais quand on installe un gouvernorat dans une localité, c'est des jeunes de la localité qui trouvent à faire. Alors, moi, je voudrais demander à ces gouverneurs-là d'avoir une bonne carrière, je sais pas, un bon plan pour les artistes de ces milieux et de créer des activités pour permettre à ces artistes chaque week-end de prester ceux-là qui sont artistes chanteurs, de prester et aussi pour peut-être les meubles de ces gouvernorats-là, que ce soit des œuvres locales de ces artistes-là. Et là, ça permettrait de redynamiser un peu le secteur artistique et culturel de notre pays.
D'accord, oui, Gabin.
Vous savez, à un moment donné, il va falloir que les devanciers essaient aussi de jouer leur rôle. Quand Dieu t'a permis, ou bien l'État t'a accompagné dans une certaine mesure d'atteindre un certain niveau, il faut essayer aussi d'aider les autres. Quand je prends juste le milieu des artistes-chanteurs, quand nous prenons quelqu'un comme Kim Messant, quelqu'un qui a deux choras, quelqu'un qui est reconnu sur le plan international, à un moment donné, je pense qu'il ne joue pas véritablement son rôle dans la culture togolaise. Aujourd'hui, Kim Messant n'a pas une grande maison de production. Kim Messant, de le citer, parce que c'est pour moi le plus grand actuellement au Togo. Donc, il n'a pas une grande maison de production pour pouvoir produire les jeunes, accompagner les jeunes, comme le fait Youssou N'Dour au Sénégal. Alors que, bon, dans les normes, Kim Messant, il est de la même trempe hein, que Youssou N'Dour.
Mais il y a la question des moyens aussi.
La question, Kim Messant ne va pas me dire qu'il n'a pas les moyens quand il construit des complexe hôtelier un peu partout. Et en plus, ce qu'il me semble, c'est quelqu'un d'assez qui a une certaine personnalité, qui peut faire des appels de fonds et puis les institutions internationales vont l'accompagner facilement. Mais il ne le fait pas. Quand nous prenons quelqu'un comme Afia Mala, ben, c'est une dame qui est reconnue même dans les plus profonds hein, des Amériques, mais elle n'a pas de maison de production, elle n'accompagne pas véritablement les jeunes. Moi, il n'y a jamais aucun artiste togolais qui m'a dit que bon, j'ai pu faire une tournée aux États-Unis ou bien dans le sud du Brésil grâce à Afia Mala, grâce à Kim Messan, les devanciers et autres là. Donc, les Fifi Rafiatou et autres là, des gens qui sont véritablement de grands artistes qui n'arrivent pas à accompagner leurs jeunes. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout, hein, on peut pas tout faire reposer sur l'État. L'État a su faire sa partition. Maintenant, ce sont les devanciers qui doivent aussi d'accompagner les jeunes. Je pense que bon, le groupe Toufan, à un moment donné, ils amènent les jeunes dans leur studio, ils font des productions et autres, là, certaines collaborations. Ce que je ne trouve pas véritablement auprès de Kim Messan, en dehors du fait de rencontrer des jeunes, de faire des petites vidéos et autres, là, il faut s'engager dans la culture parce que lui, aujourd'hui, il ne doit pas être dans la trame de faire sortir des albums, mais d'accompagner beaucoup plus, de devenir beaucoup plus producteur de ces jeunes artistes-là, comme l'avait fait et Jimmy Hope en son temps dans le domaine des artistes plasticiens. Il a accompagné des jeunes, il a fait émerger beaucoup plus de jeunes, et quand on lui a confié le projet des fresques, il a appelé beaucoup de jeunes à son niveau pour pouvoir travailler avec lui. Il a mis ces jeunes-là en lumière. Donc je pense que Kim Messan aussi doit essayer de faire pareil. Kim m'en excuse, mais je pense que c'est le plus grand, et ceux-là qui ont une plus grande étoile doivent faire en sorte que les jeunes puissent émerger.
Oui, mais d'abord, on te dira que Kim Messan agit également dans d'autres secteurs, avec sa fondation Kim Messan, qui avait
bon, excusez-moi, oui. Vous, que par exemple dans le domaine de l'orphelinat, ben, l'orphelinat, il y a beaucoup de personnes qui le font, même des Togolais lambda le font. Et toi, peut-être dans ton village, chaque rentrée ou bien à chaque fête de fin d'année, tu offres des vivres et autres là, à des jeunes, tu permets à des enfants d'aller à l'école et autres. Lui aussi le fait à sa manière, mais je ne pense pas que ça soit son rôle, puisque lui, il est sponsorisé par des institutions internationales aussi, vu sa renommée, et je pense qu'il peut impacter plus que ça son milieu d'où il vient, le milieu qui lui a tout donné, à savoir le milieu artistique.
D'accord. Oui, Monsieur Kofi.
Pascal, j'ai comme l'impression qu'on m'a mal compris tout à l'heure. Écoutez, la culture est importante. Nul ne saurait le nier. Mais vous savez, c'est juste un aspect de la vie d'une nation. Il y a plusieurs autres aspects. Et il donnait tout à l'heure l'exemple de Guérin Kouka, comme je l'avais dit.
Vous voulez parler de Firmé ?
De Firmé Teko Agbo. Il a dit qu'à Guérin Kouka, il y a des jeunes qui ont le talent de devenir artistes et ses consorts. Mais je voudrais lui dire aussi que dans ce même village de Guérin Kouka, il y a peut-être un jeune qui est talentueux, qui a le talent de devenir architecte de renommée, qui a le talent de devenir footballeur, mais qui n'a pas les moyens, qu'il n'y a personne pour le pousser. Alors si, à un moment donné de la vie d'une nation, l'État se focalise sur un seul secteur et laisse tous les autres secteurs dans lesquels il devrait accompagner ses citoyens. Je pense que c'est dangereux pour nous. C'est pourquoi je dis que c'est vrai que la culture est importante, mais ce n'est pas le seul aspect de la vie d'une nation, ce n'est pas le seul aspect de l'économie. Il y a des jeunes qui veulent développer de très bonnes idées dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui ont juste besoin d'un petit pouce. Je sais que l'État est déjà en train de faire des efforts dans ce domaine-là, mais je pense qu'un partage équitable de l'attention de l'État dans les domaines qui sont importants serait mieux que l'on se focalise sur un seul secteur.
Mais on dirait aussi qu'il y a des priorités.
Moi, peut-être ça, je la comprends. C'est maintenant je suis en train de le comprendre. Mais c'est-à-dire, il faut en réalité que tous les domaines deviennent priorités dans notre pays. C'est-à-dire, quand on parle des pays occidentaux, tout ça, c'est-à-dire, ils n'ont laissé aucun domaine. On ne vous parle de hockey sur glace.
Mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir des priorités?
Oui, il faut qu'il y ait des priorités, mais qu'aucun domaine ne soit,
voilà,
ne soit laissé. Voilà. De côté, quand on vous dira qu'il y a hockey sur glace, on vous inventera des sports pas possibles. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des talents dans plusieurs domaines. Mais ici, en Afrique particulièrement, c'est parce que nous n'arrivons pas à créer des domaines ou à lire en nous. En nous prochains des talents, des choses que des gens ont en eux, et comment on peut les exploiter pour pouvoir développer nos pays. Mais quand il parlait de Kim Messan, par exemple, Kim Messan, c'est un grand artiste, c'est un grand nom que nous respectons tous, mais Kim Messan, qu'est-ce qu'il a construit? Rien pratiquement.
Et quand on parle du développement, il faudrait que le développement ait surtout un visage humain. C'est très important. Alors, on va quitter le sujet. C'est vrai que on a eu quand même cette improvisation alors sur ce sujet. C'est un sujet très intéressant parce que ça parlait aussi alors de la vie d'un aspect spécifique et également de notre développement. Mais on va s'intéresser à cette question des incendies et parce que hier on en avait connu encore avec l'incendie d'un magasin au niveau alors de la place Bonquet à Nikonakwe, tout près ici. C'est vrai, avec le bilan, le premier bilan avance quand même qu'il y a des dégâts matériels et surtout alors des produits électroménagers, j'allais dire. Et il y a le journal Journal du Togo qui revient sur ce sujet alors d'incendie. Et lui parle plutôt alors de l'incendie des marchés, et surtout notamment du marché d'Adido Gomé. Et le journal écrit incendie au marché d'Adido Gomé entre inefficacité et incompétence. L'EPAM, cet organe obsolète, doit faire peau neuve. Alors, et quand on prend aujourd'hui cette question d'incendie des marchés, Gabin, est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose?
Sincèrement, je n'arrive plus à comprendre. Je n'arrive plus à comprendre parce que ça fait déjà pratiquement, depuis 2013, hein, 11 ans, qu'on est en train de vivre la même situation.
Et là,
situation.
On dénombre pratiquement 10 marchés.
Oui, et ça devient pratiquement une psychose pour nos dames et messieurs qui sont dans les marchés. À un moment donné, je me pose la question de savoir si ça ne revêt pas de questions de métaphysique. Parce qu'à un moment donné, le marché d'Amour Blo qui a brûlé la dernière fois, ce n'est pas un marché électrifié. Bon, le feu est parti d'où? Comment ça s'est fait pour que ce marché-là puisse se détruit comme ça, parti en vrille et tout. Et le marché d'Adido Gomé, ce sont des hangars. Ce n'est pas un marché moderne. Hein. Là aussi, on va aborder cet aspect-là après. Mais ce n'est pas un marché moderne. Ce marché-là s'existe depuis belle lurette. Et moi, je n'ai jamais vu des bonnes dames en dehors de ceux-là qui préparent et viennent vendre au marché, mettre le feu au marché. Au grand jamais. C'est un marché, les dames même, surtout après l'incendie du marché d'Aguassier, les dames ont pris des mesures pour que, bon, même les clopotes qu'on faisait entre-temps pour préparer au marché, les dames ne font plus ça. Comment cela se fait que, bon, heureusement que les petits portefeuilles étaient là pour éteindre l'incendie, mais il y a eu d'énormes dégâts matériels. Les gens ont vu leurs marchandises partir comme ça. Et ce qui est un peu grave, c'est que ça se passe pratiquement dans la même période. Soit c'est la fin d'année, soit c'est en début d'année. C'est toujours la même chose qui se passe. Et à un moment donné, je me pose la question de savoir si cela ne relève pas des questions des questions métaphysiques. Parce qu'à un moment donné, chez nous, on appelle quelque chose Bessie. Il y a eu un problème. L'incendie des marchés de Lomé, des grands marchés de Lomé et de Kara. Ces problèmes-là n'ont pas été réglés jusqu'à présent. Il y a des gens qui sont inculpés, qui continuent toujours pas à circuler. D'autres sont devenus des maires, d'autres sont députés, Mme Adjamagbo, M. Jean-Pierre Fabre, qui occupent des postes de responsabilité aujourd'hui. Ils n'ont jamais été jugés. Et ces messieurs-là, pour aller quelque part dans un pays donné, ils sont obligés de passer par la justice. D'autres sont morts. Monsieur Étienne Yakanou, paix à son âme, est mort en prison à cause de cette histoire. Parce que pour elle et pour ce monsieur-là et sa famille, il a été détenu arbitrairement. Est-ce que celui-là peut-être, avant de mourir, il n'a pas eu à dire quelque chose? Est-ce que la manière dont ce problème-là a été géré, puisque à ce temps-là, on nous avait parlé des questions des gens qui sont allés dans un cimetière de Kamalodo ou quelque chose du genre. Ça veut dire qu'ils sont allés faire des trucs métaphysiques là-bas avant de venir brûler le marché. Donc, à un moment donné, nous sommes en Afrique, il faut questionner les divinités pour savoir réellement ce qui est en train de se passer. Parce que nos marchés, c'est la base de nos économies. Même les étudiants qui ont fini au campus, qui n'arrivent pas à trouver un petit job à faire, ils vont au marché. C'est là-bas qu'ils arrivent à trouver leur pain quotidien. Et si la base de notre économie est détruite, comment est-ce qu'on va faire? Et l'autre pan aussi, pour aborder l'aspect beaucoup plus physique et réel, on n'a pas de marché moderne. Excusez-moi de le dire, la plupart de nos marchés, quand tu vas à Gbonsimé aujourd'hui, ce sont juste des hangars, des paillotes et autres là qui sont mises. Ces marchés-là, ce ne sont pas des marchés modernes comme cela se construit aujourd'hui au Bénin. Donc ça pose problème. Et les marchés qui sont électrifiés, comment l'électrification se fait? Ce sont les bonnes dames elles-mêmes qui amènent les électriciens. Chacun essaie d'acheter les fils électriques qu'il faut pour mettre l'électricité, ce qui fait que les choses ne se font pas dans les normes pour aborder l'aspect beaucoup plus réel. Donc je pense que l'État doit penser beaucoup plus à construire les marchés modernes, moderniser nos marchés, faire les choses d'une certaine manière, de manière beaucoup plus développée que ce qu'on est en train de voir. Mais moi, ma vision, c'est beaucoup plus sur le plan métaphysique. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas simple.
D'accord.
Pas du tout.
Ok. Firmin, est-ce que vous pensez, enfin, vous voyez quand même que c'est simple, puisque Gabin lui dit que non, et ce qui se passe actuellement, lui pense que ce n'est pas simple. Maintenant, on compte ou on dénombre pratiquement 10 marchés depuis, 10 marchés brûlés, hein, depuis 2013. Mais est-ce que ce n'est pas assez pour qu'on arrive à prendre des dispositions pour qu'on n'en connaisse pas d'autres?
Oui, quelles dispositions prendre? Les dispositions scientifiques, il faut chercher à connaître la cause. Vous savez, lorsque vous êtes père de famille, que les mêmes choses chaque fois se produisent dans votre maison, vous devez commencer à arriver à par vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ça? Moi, je me dis que c'est à cette étape-là que nous sommes arrivés, où les autorités togolaises doivent s'interroger sur ce qui se passe. Ça fait déjà 12 ans, c'était en 2013, je pense, 12 ans déjà que nous connaissons, c'est presque le même problème. Je pense qu'il faille aujourd'hui aller au-delà de ces questions scientifiques. Vous savez, le feu, c'est quelque chose de spirituel. On a cité King Messan tout à l'heure. Moi, c'est avec King Messan que j'ai appris qu'on ne balait pas les nuits. C'est parce qu'avant, on balait nos rues les nuits. C'est lui qui dit non, il faut interdire aux gens qui balaient les nuits de balayer les nuits. Donc, King Messan, c'est quelque chose de spirituel, qui parle des choses spirituelles. Peut-être qu'il faut aller lui demander quand des choses comme ça arrivent. Puis, souvent, il est devenu un grand spirituel sur les réseaux sociaux. Il parle de spirituel, il parle de la philosophie de la vie. Mais je pense que des gens comme King Messan ou d'autres ailleurs, on pourrait les associer à cette question-là pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce que les incendies, c'est quoi? C'est le feu. Il y a des choses fondamentales dans la vie. On dit le feu, l'air, la terre et quoi? Il reste un quatrième.
Et le vent.
Donc le feu, c'est quelque chose. Donc quand le feu fait toujours son apparition, il faut se poser un certain nombre de questions.
D'accord. Oui, Kofi?
Pascal, lorsque vous souffrez d'un mal dans un centre de santé ou devant un docteur et que le docteur ne prend pas soin de faire un diagnostic réel du mal dont vous souffrez, peu importe le genre de traitement qu'il vous fait, le mal reviendra toujours. Je pense que depuis 2013, les uns et les autres, dans la résolution de la question des incendies des marchés de Kara et de Lomé, ont fait des efforts. Mais est-ce qu'on est allé réellement à la source du problème? Ou bien est-ce qu'on a été superficiel dans la résolution de ces crises-là? Parce que si l'on a été à la source du problème, je ne pense pas que nous aurions au jour d'aujourd'hui cette récurrence-là de ce problème. Et Gabin, tout à l'heure, dans son intervention, parlait de l'installation anarchique
Des courants électriques. Souvent, oui. Après les enquêtes, oui. Il y a cela, la cause là qui est souvent révélée.
Voilà.
Oui, le coup circuit, bien sûr.
Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Est-ce que dans l'installation électrique dans un marché, est-ce qu'on devrait avoir une structure qui prenne en charge cela, au lieu de permettre à n'importe quel électricien dont on ne connaît la formation, dont on ne connaît l'expérience, de venir dans un marché faire cette installation à lui, sur la base du fait qu'un client, ou bien une revendeuse, ou bien une commerçante du marché l'a invité à venir installer des trucs. S'il y a un organe central qui s'occupe non seulement de l'installation des gaz électriques dans les marchés, et aussi de la sécurité du marché, je pense que le problème serait à mi-résolu. Secondo, est-ce que le problème n'est pas aussi la faute de certains arsonistes, des gens qui se spécialisent dans le côté criminel des incendies, ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu au marché.
C'est-à-dire de cause criminelle, bien
voilà.
Sûr.
Voilà. Est-ce qu'on est allé à la source là? Est-ce qu'on a cherché à savoir si ce sont des individus mal intentionnés qui mettent le feu à nos marchés?
Mais à quelle fin, si il doit y avoir vraiment ces causes criminelles?
Ben, on ne fait rien sans rien. S'il y a vraiment des gens qui font ça, ils doivent avoir leur raison. Parce que vous levez un matin et vous vous rendez compte que vos investissements que vous avez fait dans un marché sont partis comme ça à l'eau. Mais l'argent que vous avez investi n'est même pas votre argent. C'est de l'argent prêté. Voilà. Et vous vous retrouvez à zéro. Vous n'avez personne à qui pleurer, à qui aller, à demander de l'aide. Et chaque fois, ça se reproduit. Qui profite de ça? Si c'est un crime, c'est juste une hypothèse que moi je donne ici. Si c'est un crime, qui est-ce qui profite de ça? Et si c'est un crime, pourquoi n'allons-nous pas chercher à identifier, à faire, le diagnostic réel du problème? Maintenant, si nous revenons au côté métaphysique dont parlait Gabin tout à l'heure, moi je suis chrétien, je ne crois pas en autre chose que le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et pour cela, moi je vais dire ceci, nous avons des hommes de Dieu dans ce pays, de grands hommes de Dieu. Si nous allons du côté spirituel pour essayer de régler le problème, pourquoi est-ce que ces hommes de Dieu-là ne se concertent pas en eux pour demander au créateur des cieux et de la terre, Seigneur, pourquoi est-ce que nos marchés prennent feu? Montre-nous ce que nous devons faire. Parce que si nous parlons même du vent, du feu, tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure, ce sont des créations du Dieu Tout-Puissant. Pas des créations de ce que nous appelons des petits dieux. Non, c'est Dieu le Tout-Puissant qui les a créés. Alors si aujourd'hui nos marchés prennent feu et que c'est une cause liée au spirituel, je pense que la personne la plus indiquée à consulter, c'est le créateur des cieux et de la terre. Voilà.
Bon, il y a quelque chose. Vous savez, je mets en doute le fait que ce sont des pyromanes sadiques qui font ce genre de choses la plupart du temps. Parce qu'à un moment donné, quand l'incendie des grands marchés de Carré et de Lomé s'était posé en 2013, le gouvernement avait pris des mesures. Et il y a, bon, selon les enquêtes qu'on avait faites, même on nous a parlé de kérosène qui avait été utilisé en cette période-là. Bon, malheureusement qu'on n'a pas eu la suite de ces enquêtes. Malheureusement, aujourd'hui, la question de savoir si, depuis lors, même on nous avait interdit d'amener des bidons dans les stations d'essence pour acheter du carburant. Donc, à un moment donné, je me pose la question de savoir si ce sont des gens qui se sont organisés, des pyromanes, comme on le dit la plupart du temps, qui se sont organisés pour incendier nos marchés. Et pourquoi précisément les marchés? C'est vrai, il y a eu un supermarché, Elino, qui a brûlé aussi à 40 ans. Mais pourquoi cela se fait-il que chaque année et au cours de la même période, ces faits-là se produisent? Et pourquoi précisément les marchés? Et nos marchés, bon, la plupart du temps, sont des marchés qui sont protégés par des sécurités, parce que le marché d'Aguasie qui avait brûlé, entre-temps, il y avait des sécurités là-dedans. Comment cela se fait-il que, bon, ce sont des sécurités, les sécurités sont là, et puis le marché a brûlé? Comment se fait-il qu'au marché d'Adido Gomé à Sieyé, ben, il y a aussi des sécurités? Qu'on ferme, il y a des sécurités, ils sont là jusqu'au petit matin, ce sont eux qui ouvrent le marché avant que les gens n'entrent. Comment cela se fait-il que le marché brûle? Que les pyromanes viennent brûler ou bien viennent incendier en lieu et présence des sécurités? Moi, ce sont des choses qui me font véritablement réfléchir. Et on ne peut pas me dire aussi que, bon, les dames font souvent... Les bonnes dames, là, ce sont des gens très, très, très minutieux. Hein. Quand il s'agit de leurs produits, mais je t'assure, comment ils emballent et tout, je doute fort que le feu puisse rentrer dans leurs marchandises et consume pratiquement toutes leurs marchandises. Et ça, c'est notre économie qui en paie le prix. Quand on sait que bon, le secteur public n'embauche pas 1% des bras actifs du pays, je pense que l'État doit véritablement réfléchir, que ce soit sur le côté métaphysique ou bien sur le côté réalité.
C'est-à-dire trouver la solution dans tous les aspects.
Tous les aspects.
D'accord, on va quitter le sujet. Je sais que, M. Kofi, vous avez quelque chose à dire encore, mais on va quitter le sujet parce que notre temps évolue. On va s'intéresser à la politique. Et s'intéresser à la politique, dans mes mots introductifs, je le disais, qu'il y a Robert Olimpio, qui est l'un des membres influents de l'ANC, qui a déposé sa candidature pour les sénatoriales du 15 février prochain. Mais on connaît la position du parti par rapport à ces sénatoriales. Oui. Gabin, finalement, on se dit, c'est quoi cette incohérence qui se passe alors dans le parti?
Vous savez, aujourd'hui, on est en train de voir clair ceux-là qui sont convaincus politiquement et ceux qui sont des aventuriers politiques. Les gens sont dans des partis politiques tout simplement pour leur ventre, ils sont dans des partis politiques pour leur propre promotion, et quand ils arrivent à obtenir une petite promotion, ils s'y accrochent. Et pratiquement, ce sont les partis politiques aujourd'hui qui doivent se poser la question de savoir si on a de véritables militants, si on a des gens qui ont épousé notre idéologie ou bien des aventuriers. Parce que ce que moi je vois aujourd'hui, ce sont les membres des partis politiques de l'opposition qui se font voir. Hein. Sinon, il y en a plein partout. C'est parce que, bon, peut-être aujourd'hui, il n'y a au pouvoir et on ne voit pas le vrai visage des gens. Mais ceux qui sont au centre de l'opposition, les gens qui viennent dire que non, ils ont été dans l'opposition pendant plusieurs temps et ils ont milité au sein de l'opposition pendant plusieurs années, ils n'ont jamais rien eu. Mais tu ne milites pas au sein d'un parti politique pour un poste. Tu milites pour une conviction, pour un combat.
Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que des gens militent vraiment pour une conviction?
C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Les gens ne militent pas pour des convictions. Parce que comment est-ce que toi, ton parti, on l'a vu avec le PNP, hein, quand le leader est parti, les gens sont sortis du parti politique, les Ouro Duba, Tatikbi, qui sont allés
créer
un autre parti avec quelqu'un qui a été chassé de l'ANC aussi. Donc, à un moment donné, on doit savoir aujourd'hui que beaucoup de personnes sont dans des partis politiques juste pour des promotions, pour avoir un poste. Et quand ce poste-là leur arrive, quoi que leur parti politique dise, ils disent « je garde ce poste-là, advienne que pourra ». C'est ce que M. Olympia est en train de nous montrer aujourd'hui. Quand tu épouses l'idéologie d'un parti politique comme l'ANC, un parti qui est dans une certaine logique, mais quel est le parti qui l'a envoyé aux élections? C'est l'ANC. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il tourne pratiquement le dos à l'ANC pour aller occuper un poste politique bon pour des histoires d'élections et autres là? Quelle est sa conviction politique? Il épousait quelle idéologie avant de rentrer aujourd'hui ou bien de tourner aujourd'hui dos à l'ANC? Donc, à un moment aujourd'hui, moi, je peux dire au leader de l'ANC aujourd'hui d'être heureux. Il faut être heureux que ces individus-là se dévoilent, qu'ils montrent véritablement leur propre face. Parce qu'on nous a parlé aussi de quelqu'un qui est à la CENI, qui a refusé de quitter la CENI parce que, bon, je ne sais pas quoi. Mais si ton parti politique ne t'a jamais envoyé là-bas, mais tu ne seras que l'homme de toi-même. On a vu des gens hein, qui ont eu à faire cela. Mais aujourd'hui, ils sont où? Il faut être convaincu de son appartenance politique. Il faut être dans la même idéologie que son parti politique. Il ne faut pas jeter son parti politique là, vendite populaire comme ça, et il pense que ce qu'ils sont en train de faire là, le parti en face va les prendre au sérieux. Quand tu n'es pas convaincu, ben UNI ne va pas te prendre au sérieux. Toi seul, tu ne représentes absolument rien. C'est parce qu'il y a un parti qui t'a coopté. Si le parti ne t'a pas coopté, tu ne seras absolument rien. Donc, à un moment donné, on va t'utiliser peut-être 3 ou 6 mois et on va te jeter parce que tu n'as plus de poids. Dans la politique, c'est une question de poids. C'est une question de vision. Et quand tu n'as pas une certaine vision, quand tu n'as pas ce poids-là pour t'imposer sur le plan national et même sur le plan politique, ben, personne ne va te regarder. Aujourd'hui, moi, je me dis, c'est le parti, l'ANC, qui doit se réjouir. Parce que ceux-là qui sont des loups déguisés en agneaux, ceux-là qui ne sont pas convaincus de l'idéologie politique, sont en train de se faire voir au grand jour.
D'accord. Firmin, est-ce que déjà cette position de ce militant du parti ne présage pas, puisqu'on a écouté quand même qu'il y a d'autres militants également qui sont dans la course, qui auraient déposé leur candidature hein, pour les prochaines sénatoriales, est-ce que ça ne présage pas une incompréhension au sein du parti?
Non, moi je pense juste que nous tendons vers la fin de l'ère radicalisme. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont été radicaux pendant des années et ils sont en train de tirer le son, de faire le bilan de tout ce qu'ils ont eu à poser comme acte, comme action, et se rendent finalement compte qu'ils ont perdu. Il ne sert à rien d'être radical pour être radical. Il faut, la politique, c'est une science tellement dynamique, on ne peut pas adopter chaque fois la même position, que ce soit ici ou dans les pays occidentaux. Il y a des gens qui ont été radicaux, arrivés à un moment donné, qui arrivent à modérer un peu leur position. Par exemple, quand on voit Robert Olympio, dont on parle, je me rappelle en 2007, lors des législatives, il était le dernier sur la liste législative UFC. Et Lomé avait 10 candidats. Donc l'UFC seul avait pris 9 et je pense que l'UFC avait 9 députés à Lomé et c'était Agba, chaque on dit Agba, qui était le 10e député,
le 10e.
C'était 10e au niveau du RPT. Donc ça avait tellement fait mal à Robert Olympia à l'époque parce qu'il se disait que mais c'était l'occasion aussi pour lui d'être élu. Aujourd'hui, il est conseiller régional.
D'être élu ou bien de manger.
Non, moi je dis d'être élu. Mais je pense aujourd'hui, par exemple, en fait, il faut savoir une chose. Il y a un principe sacro-saint qui guide l'ANC depuis un moment. C'est simple. On peut faire une chose et son contraire. C'est ça le principe sacro-saint. On peut faire une chose et son contraire. Je sais, celui qui a prononcé la phrase, vous la connaissez. Vous le connaissez. On peut faire une chose et son contraire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est en train tout d'abord de contester la nouvelle constitution. Mais on est maire. ANC au niveau de Golf 4.
Non, mais ça a été fait avant.
Ça a été fait avant.
Mais, constitution.
Oui. Mais aujourd'hui, toutes les activités presque sont régies par la 5e République. La question est de savoir aussi si au prochain local, le maire du Golf 4 ne va pas se présenter. C'est la question qu'on se pose. S'il va se présenter, alors pourquoi s'abstenir ou boycotter le fait de siéger à l'Assemblée nationale? Donc, les Robert Olympio, il faut les comprendre. Ils se disent en réalité, nous sommes dans le parti. Bien sûr, vous prenez le radicalisme. Vous nous dites, il ne faut pas vous accoquiner avec ceux qui sont au pouvoir. Mais vous continuez de vous accoquiner avec ceux qui sont au pouvoir. Quand on est maire, là, on est soumis à qui? Au ministre de l'administration territoriale. On est soumis à qui? On est soumis au Premier ministre. On est soumis à qui? On est soumis au test qu'on conteste. On est soumis à qui? On est soumis au président de la République. Vous avez le portrait du président de la République dans votre bureau. Mais tout l'argent que vous avez aujourd'hui de l'État, vous profitez des délices de l'État. Quand vous êtes maire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pourquoi vous êtes maire? Et vous n'allez pas nous permettre d'être peut-être conseiller régional. Vous n'allez pas nous permettre d'être conseiller régional. Vous n'allez pas nous permettre d'être de devenir sénateur. C'est la même chose. Sénateur, maire, conseiller régional, vous vivez des délices de l'État.
Mais peut-être qu'il y a une position qu'il défend.
Mais combien partage cette position-là? Vous savez, au niveau de l'ANC, à part ce principe, l'ANC est dirigée par deux branches. Il y a la branche radicale, peut-être dirigée par les Jean-Pierre Fabre et autres, mais il y a la branche modérée. Je peux me tromper, mais c'est mon manière d'analyser les choses. Il y a la branche modérée dirigée par les Patrick Lawson. Comme Patrick Lawson n'est plus de ce monde, paix à son âme, il y a beaucoup qui se voient déjà perdus. Moi, je pense que les Robert Olympio sera un peu de la branche de Patrick Lawson qui n'est plus de ce monde. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ça, il faut juste faire le bilan. On a été radical pendant des années. Ça a apporté quoi? Moi, le fait que Jean-Pierre Fabre soit devenu maire aujourd'hui, moi, ça me intéresse parce qu'au soir, déjà, il est né en 1952. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Au moins, il termine sa vie avec maire. S'il fait encore un mandat ou deux mandats, à 80 ans, maire, il termine son mandat candidat, opposant, chef de file de l'opposition. Moi, je lui dis bravo. Mais qu'il permette aux autres aussi de faire cet apprentissage. Comment on gère peut-être un pan de pouvoir de la République? Moi, je pense que les Robert, il faut les comprendre. Eux aussi veulent être élus, eux aussi veulent être nommés, eux aussi veulent profiter de l'État. C'est normal. C'est leur pays, c'est leur ressource. Donc il faut le leur permettre.
D'accord. Oui, Kofi, est-ce que vous arrivez à comprendre la position de Robert Olympio qui est contraire à la position même de son parti?
Pascal, je pense que nous avons fait une mauvaise appréhension de ce que c'est que la politique dans ce pays. La politique, c'est quoi? Quelles sont ses fins? On fait de la politique pourquoi? On s'engage en politique parce qu'on est convaincu d'une certaine idéologie. On s'engage en politique parce que nous croyons que cette idéologie-là pourrait nous amener à obtenir le pouvoir politique. Et en politique, on ne peut rien sans le pouvoir politique. Si on a vraiment envie de changer les choses, il faut forcément obtenir le pouvoir politique. Mais moi, je vais dire ceci. Monsieur Jean-Pierre Fabre a erré sérieusement en décidant de devenir maire après avoir été candidat à une élection présidentielle. Pas une fois, pas deux fois. Vous imaginez, par exemple, John Mahama, opposant au régime de Nana Addo, qui décide parce qu'il a tenté par une ou deux fois la présidence et que ça n'a pas marché, de se présenter à une élection municipale et de devenir maire. Ce n'est pas possible.
Non, mais c'est son droit aussi, quand même.
C'est son droit, mais c'est une perte de pédale, c'est une perte de vision. Regardez, on se demande si la vision primaire, l'intention réelle de M. Jean-Pierre Fabre, dès le début, a été d'avoir le pouvoir politique dans sa plénitude pour pouvoir étaler sa vision, pour changer le quotidien des Togolais. Ou bien, c'est plutôt juste d'avoir un poste et de pouvoir avoir les moyens d'avoir des privilèges liés à ce poste-là. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi un leader d'un parti politique de l'opposition peut se mettre dans une position qu'il assujettit au régime qu'il combattait. Et quand vous faites ça, vous mettez vos partisans en difficulté. Ils se demandent, mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, vous êtes là en train de manger. Et vous nous empêchez de manger. C'est comme si aujourd'hui, tous ceux-là qui se disent de l'opposition, tous ceux-là qui se disent politiciens dans ce pays, sont en train de chercher un moyen de trouver une place pour pouvoir manger. Et c'est déplorable.
Mais est-ce que ce n'est pas un narratif très simple de dire cela, Gabin, dire que ces gens-là cherchent une place pour manger, est-ce que ce n'est pas un narratif très simple? Et que peut-être on veut travailler plutôt pour son pays et avoir le développement de son pays?
Non, pas du tout. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils veulent travailler pour leur pays. Ce qui est révélateur est que, bon, ce ne sont pas des postes de grande responsabilité que ces gens-là vont occuper. Ils seront juste peut-être soit un conseiller régional ou bien peut-être ils visent le poste de sénateur ou autre.
Puis
ça va juste s'arrêter là. Et puis, vous savez, Monsieur Jean-Pierre Fabre, je vais contredire mon ami Kofi. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'a pas erré en devenant maire. C'est un poste électif, vous voyez. Et servir son pays, les grands dirigeants comme les Jacques Chirac et autres, là, ils ont occupé des postes de mairie avant de devenir des présidents de la République.
Avant.
Et monsieur Jean-Pierre Fabre, lui, il a eu à participer à des élections présidentielles dans ce pays. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa personne. Sauf que nous, au Togo, on a cette manie-là de penser que, bon, dès que quelqu'un occupe un poste, ça veut dire que, bon, il est allé à la mangeoire. Ce n'est pas du tout ça. Monsieur Jean-Pierre Fabre, si on avait nommé Monsieur Jean-Pierre Fabre préfet, peut-être, on allait dire que, bon, c'est le représentant du pouvoir central. Or, le pouvoir sous lequel Monsieur Jean-Pierre Fabre travaille, ou bien le ministère de l'administration territoriale, c'est très différent du Parti Unir. Le gouvernement est différent du Parti Unir. Unir est composé des gens qui ne sont même pas du Parti Unir. Bon, le gouvernement est composé des gens qui ne sont pas du Parti Unir et tout. Et au niveau de la mairie Golf 4, il y a des gens qui ne sont pas que de l'ANC. Il y a des gens de la société civile, il y a des gens du gouvernement, et puis il y a des gens de l'ANC et d'autres partis politiques qui ont porté leur choix sur M. Jean-Pierre Fabre. Et maintenant, l'ANC ne se limite pas juste à M. Jean-Pierre Fabre, hein. C'est un parti très bien constitué et, à part Unir, c'est le second parti le plus implanté sur le territoire national, qui a des fédérations sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que c'est un parti assez convaincu, assez bien organisé. Maintenant, si les gens veulent changer d'orientation politique, c'est aussi simple que ça. Il faut donner sa démission. On a vu M. Georges Haïdam quand il était au CAR. Quand il a voulu changer d'orientation politique, il a donné sa démission au bureau politique du CAR qu'il lui a accordé. Et puis bon, il est allé rejoindre UNI, il est devenu vice-président ou bien président intérimaire du parti. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, je pense que nous devons cultiver l'élégance politique. Les gens ne sont pas élégants dans la politique togolaise. Et on ne peut pas t'envoyer quelque part et puis après tu vas refuser de partir. Ou bien ton parti ne peut pas être dans une certaine idéologie donnée et puis toi tu vas dire je suis dans ce parti-là mais moi j'épouse une autre idéologie. Si tu épouses une autre idéologie, va créer ton parti politique ou bien reste dans l'idéologie de ton parti politique. C'est une question de discipline. D'accord. Je ne suis pas sûr que quelqu'un doit unir aujourd'hui si Unir va dire je ne vais pas aux élections communales ou bien je ne vais pas aux élections sénatoriales. Quelqu'un va lever son petit doigt et dire que non, moi je vais y aller. Peu importe ce que mon parti politique est en train de dire,
d'accord.
C'est pas du tout normal.
Oui, M. Kofi.
Pascal, Gabin vient de dire quelque chose tout à l'heure concernant M. Chirac. M. Chirac, dans son ascension politique, il avait été maire, il avait été tel ou tel avant de devenir candidat à une présidentielle. Ouais. Maintenant, M. Jean-Pierre Fabre a d'abord été candidat à une élection présidentielle avant de devenir maire.
Candidat, mais pas président.
Moi, j'aurais plutôt aimé qu'il laisse plutôt ses collaborateurs aspirer à ce genre de responsabilité politique plutôt que lui-même. Et qu'il poursuive sa mission, qu'il poursuive sa quête du pouvoir politique dans sa plénitude. Maintenant, secondo, je vais dire ceci, je n'avais pas fini précédemment. Écoutez, dans un pays normal, M. Robert Olimpio serait poursuivi
il aurait pu perdre, ou bien il pourrait facilement perdre son poste de conseiller régional. Parce que ce parti-là, avec lequel il est allé aux élections, et à travers lequel il a eu le poste de conseiller régional, il désavoue publiquement ce parti en plein, comment dirais-je, en plein avancement de son mandat. Alors, si nous avons des lois qui fonctionnent dans ce pays, l'ANC pourrait poursuivre M. Robert Olympio, et il pourrait facilement perdre ce poste-là de conseiller régional.
Moi, je voudrais pas rentrer dans ce débat de Chirac ou tout ça, mais vous savez qu'actuellement, il y a un ancien président français qui est député en France.
Mais il a été président.
Oui, un ancien président.
Oui, il a été président.
Oui, mais il garde toujours le titre de président.
De président.
Il garde toujours le titre de président. Oui. Mais il est descendu très bas.
Oui, c'est toujours député.
Oui, député.
Ça, c'est normal.
C'est toujours pour participer au débat public.
Ça, c'est normal. Maintenant,
et surtout la vitalité même de ce
pays. La vitalité de ce pays. Maintenant, l'autre chose, c'est-à-dire, est-ce que quand vous parlez d'idéologie, quelle est l'idéologie de l'ANC? L'idéologie de l'ANC, c'est quoi? C'est boycotter? Non. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Robert Lupin n'a pas dit qu'il ne s'inscrit toujours plus dans, ou qu'il ne s'inscrit plus dans l'idéologie de l'ANC.
Est-ce que l'acte posé ne montre pas le contraire de la position de
votre parti? Non, la position ne veut pas dire idéologie. Idéologie, soit vous êtes socialiste, soit vous êtes communiste, soit vous êtes socialiste international, vous êtes capitaliste, et ainsi de suite. Tout ce qui se passe n'a rien à voir avec l'idéologie du parti. C'est une question de position et de vision par rapport au parti. Maintenant, regarde, ce qui est en train de faire, c'est vous connaissez l'histoire de Bernard Kouchner avec le parti socialiste en France en 2007. Le papa Bernard Kouchner, c'est un socialiste. Mais Sarkozy est arrivé, Sarkozy dit non, j'ai besoin de Bernard Kouchner, c'est un grand diplomate, il est bilingue, il parle plusieurs langues, j'ai besoin de lui dans mon gouvernement. Les socialistes avaient dit non, mais Bernard Kouchner a dit finalement, moi je vais aller. Ce qui se passe au niveau de l'ANC, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Par exemple, avec l'histoire de Gomado, Kwame Gomado qui est aujourd'hui ministre, même entre Gomado et l'ANC. L'ANC, ce n'est plus le grand amour, c'est le désamour total. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est-à-dire, moi, ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas une question d'être contre ou pour l'ANC, mais c'est de faire une certaine lecture. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'ANC qui ne s'inscrivent plus trop dans la ligne radicale du parti. Il faut le leur concéder. Il y a
un journaliste pas radical. C'est pourquoi le FDR. Est-ce que le FDR sont radicaux?
Non. Regardez par exemple. L'ANC, c'est la ligne du non. Et ça, leur idéologie. Moi, je me dis que est-ce que l'ANC, actuellement, là où l'ANC est, et si on lui remettait le pouvoir politique, est-ce qu'elle pourrait diriger le pays?
Ils ne pourront pas faire cette analyse-là.
Vous savez. Parce que finalement, on a l'impression que l'ANC a peur du pouvoir politique.
Pascal, lorsque vous allez à l'encontre de la ligne directive de votre parti, vous avez trahi le parti. Quelle que soit la décision que vous prenez, du moment où cette décision vient à l'encontre de ce que le parti a décidé officiellement, vous êtes un traître. C'est ce que nous devons comprendre.
D'accord, on quitte l'ANC. On va s'intéresser au professeur Goguet, puisque tout récemment, je ne sais pas si vous avez suivi la réaction alors de maître Kwadi Adjaré, qui demandait plutôt la démission alors de professeur Goguet à l'Assemblée nationale, parce que déjà étant député dans la nouvelle constitution, dans la nouvelle Assemblée nationale, cela démontre qu'il cautionne ce qu'ils appellent le coup d'État constitutionnel. Déjà là aussi, on pourra se poser des questions.
Vous savez, la nouvelle constitution aujourd'hui a mis beaucoup de personnes à l'école. Tellement que les partis politiques, ils ont du mal à choisir. Et c'est en cela que, bon, il faut féliciter certains qui ont pris position depuis le début, l'ANC, les FDR et autres, là, qui ont pris position depuis le début, que bon, ils ne vont pas siéger sous la nouvelle constitution parce que ça ne requiert pas de. Ça ne relève de quoi d'entendement. Ce n'est pas logique de dénoncer quelque chose et puis de pouvoir être sous l'ordre de cette constitution-là. Maintenant, pour le professeur Aimé Goguet, il a choisi de siéger avec Dama Diamagbo. Ils ont choisi de siéger. Et ils ne peuvent pas me dire aujourd'hui que, il siège et au même moment, il luttait contre cette constitution-là. Parce que, certes, la DMP, ils disent qu'ils ne vont pas participer aux élections sénatoriales, mais ils sont à l'Assemblée aujourd'hui sous la constitution de la Ve République. Et le professeur Gogué doit pouvoir assumer aussi qu'il siège sous la Ve République maintenant. Cela ne lui enlève pas le fait qu'il soit toujours opposant. C'est un opposant, il veut toujours arriver au pouvoir, briguer la magistrature suprême. Donc cela ne lui enlève absolument rien. Sauf que bon, bah, lui-même, c'est il a aussi sa ligne directrice. Il veut aussi s'opposer d'une certaine manière au pouvoir en place actuellement. C'est-à-dire siéger, contrer le pouvoir, débattre directement avec le pouvoir à l'hémicycle, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. S'il y a d'autres personnes qui ont décidé de ne pas siéger, lui, il siège. Et puis bon, il faut aussi respecter sa position. C'est aussi simple que ça. Si Maître Kwande Adjaré demande au professeur Aimé Gogué de ne pas siéger, je ne suis pas sûr que lui fait partie du parti du professeur Aimé Gogué pour lui demander de ne pas siéger. Il ne connaît pas non plus la vision ni la ligne directrice du parti politique du professeur Aimé Gogué. Donc, on doit laisser chacun prendre sa direction, quitte à la population d'épouser la position de la personne ou bien de ne pas l'épouser.
Fibère, est-ce que vous arrivez à comprendre cette demande de Maître Kwande Adjaré?
Non, vous savez, je pense que Maître Kwande Adjaré, vous l'appelez Maître.
Oui, Maître, bien sûr.
Avocat. Oui. Il a étudié le droit. Je pense qu'il a étudié profondément le régime politique français. Celui qui a le plus contesté la constitution de la Ve République française, c'était François Mitterrand. Mais c'est lui qui avait beaucoup plus profité de cette même constitution. Il a toujours combattu le général de Gaulle. Il a dit la constitution de la Ve République, lui n'en voulait pas du tout. Mais c'est lui qui en a le plus profité. C'est comme ça la vie. Donc c'est-à-dire en réalité, aujourd'hui, le professeur Gogué peut dire je conteste la constitution, mais cela ne me permet peut-être pas, ou je ne vais pas me donner ce plaisir de me départir de tout ce qui a trait à la vie de la République, puisque la vie de la République est régie par cette constitution. Mais non! Le grand juriste, Kwande Adjaré, quand il parle de coup d'état constitutionnel, première chose. Deuxième chose, il parle de quoi? Il veut qu'on ramène la constitution de la 4e République, qui est un copier-coller de la constitution française, où les Français aujourd'hui politiquement n'arrivent pas à s'en sortir. Un copier-coller. Aujourd'hui, moi, en réalité, moi, je n'ai rien à reprocher au pouvoir par rapport à la constitution. Ça, je l'ai toujours assumé. On peut reprocher au pouvoir la procédure. Et sur ce point, moi, je ne reproche absolument rien au pouvoir parce que j'ai toujours dit, moi, je suis un anti-référendum. Le référendum, c'est du bluff. On peut faire un référendum pour une question directe. Voulez-vous adhérer à la CEDEA? Oui, pour cette question. Mais pour un test de 100 articles soumettre à un peuple, à ma grand-mère qui n'a jamais été à l'école, ou à mes frères qui sont au lycée, ou à mon grand-père qui est peut-être dans les lacs, ou à Pia, mais qui ne comprend pratiquement rien. Même un seul article, mon grand-père ne peut comprendre.
Quand on dit qu'on doit aller vers la démocratie, ça aussi c'est démocratique.
Mais tout de démocratie, tu veux, la démocratie, pour que ça soit utile en réalité. Vous savez, les Américains, c'est quoi? C'est plus de 300 millions d'habitants. Mais la constitution américaine a été votée par 370 personnes. Moins de 370 personnes. Pourquoi? Parce que les Américains se sont dit, mais tout le peuple là, la majeure partie ne peut rien comprendre de cette constitution-là. Donc il faut des grands électeurs pour rédiger. Et ce sont des grands électeurs qui ont rédigé la constitution. Et ce sont ces grands électeurs qui ont adopté la constitution. Exact, c'est comme ça. Donc ceux qui ont inventé la démocratie, c'est comme ça, ils la pratiquent. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il faut des réalistes. Moi, je suis réaliste avec la démocratie. Ceux qui contestent la constitution, tout ça. Moi, il y a une chose. Moi, je dis, moi, je voudrais que le Togo expérimente véritablement ce régime présidentiel. On a pris un peu de la...
Parlementaire,
pardon. On a pris un peu de la Grande-Bretagne. On a pris un peu. Maintenant, on veut adapter au contexte politique togolais. Moi, j'en suis heureux. Regardez par exemple, je l'ai dit une fois ici. Quand vous voyez un peu le régime russe, c'est un régime français qu'ils ont copié. Mais quand vous lisez un peu le contenu, ils ont adapté ça au contexte politique russe. Donc le Togo est sur la même voie. Je l'ai encore dit ici. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est un mélange de régime semi-présidentiel, de régime présidentiel. Dans quel pays vous avez une fois vu un président de la République, un premier ministre, un vice-président? C'est dans un régime présidentiel que vous verrez un président de la République, un vice-président. C'est dans un régime semi-présidentiel que vous verrez un président et un premier ministre. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont tout mélangé. Ils ont adapté ça au contexte politique ivoirien. Quand vous voyez le Sénégal a pris le régime présidentiel français pour l'adapter au contexte politique sénégalais. Donc on dit à Adjaré, qui a étudié le droit, qui est un grand avocat, un grand juriste que je respecte, qu'est-ce qu'il repose fondamentalement? Moi je pense qu'au final, il cherche juste des éléments pour contester le pouvoir, mais qu'il laisse le professeur Gogué expérimenter la vie parlementaire nouvelle, expérimenter un peu le régime parlementaire, et au soir de ce régime parlementaire, ou au soir de leur mandat de 6 ans, ils vont se dire, oui ça a marché ou ça n'a pas marché.
Oui mais Kofi, quelle est l'analyse que vous faites alors de cette demande de Maître Kwande Adjaré?
Merci Pascal. Les Anglais ont un adage qui dit « You don't cry over spilled milk ». C'est que lorsque le lait est déjà versé par terre, vous ne passez pas votre temps à pleurer là-dessus. Vous avancez. J'ai toujours dit que le régime que nous avons en face de nous, le régime qui dirige ce pays, n'est pas un régime d'amusement. Ce sont des gens qui sérieusement se mettent dans l'application des stratégies politiques, connues de par le monde entier et qui aident les régimes à se maintenir. Aucun régime dans ce monde ne peut faire des erreurs à donner à une opposition la chance de perdre le pouvoir pour que cette opposition-là vienne prendre le pouvoir et les déloger. Chaque pouvoir travaille à son maintien. Et moi, j'ai toujours dit que cette nouvelle constitution, cette 5e République, c'est un travail de fond que le régime unir a fait, juste pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, c'est Mandela qui disait qu'il appartient à l'oppresseur de déterminer la nature de la lutte. Aujourd'hui, il faut que l'opposition togolaise s'adapte à la nouvelle nature que le régime a donnée à cette lutte-là. Il faut que, au lieu de pleurer, au lieu de se dire, vous avez fait un coup d'état constitutionnel, nous demandons le retour de la constitution de 92, posez-vous la question de savoir comment est-ce que nous pourrons arriver à vous prendre à votre propre piège, à faire en sorte que, durant les prochaines élections législatives, nous puissions vous surprendre et gagner les élections et vous dégager. Je pense que c'est le travail que l'opposition a à faire. Au lieu de continuer par pleurer tous les jours, on a modifié une constitution sans consulter le peuple, on a changé la constitution, le peuple n'en veut pas. Il faut avancer.
Non, moi, je pense à la réalité. L'opposition n'en peut plus. Elle est dépassée parce qu'aujourd'hui, elle sait qu'aujourd'hui, le peuple majoritairement suit le parti qui est au pouvoir.
Non, on ne peut pas le dire ainsi. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la plus grande majorité du peuple togolais suit le parti au pouvoir.
Les élections le démontrent.
Non, les élections, quel est le taux de participation lors des dernières élections? Est-ce qu'on nous a donné le taux de participation? On ne nous a pas donné le taux de participation. On ne nous a pas donné le nombre de personnes qui ont voté pour UNI, le nombre de personnes qui ont voté pour l'ANC et autres là. On n'a pas les nombres, on n'a pas les chiffres. C'est que la réalité aujourd'hui est que le peuple togolais est fatigué des élections. Les gens ne vont plus voter. Disons la vérité, les gens ne vont plus voter parce qu'il y a eu toute une succession d'événements.
Quand vous dites que les gens sont
découragés,
il n'y a rien qui va voter.
Mais vous savez, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des efforts que le pouvoir en place doit faire. C'est d'ouvrir le débat politique, d'ouvrir le champ politique, permettre à toutes les personnes, à tous les partis politiques d'arriver à faire leurs preuves sur le terrain. C'est à cela qu'on peut arriver à voir clairement qui fait quoi et qui peut apporter un plus au pays. On ne peut pas, on est dans une république, ce n'est pas un royaume. Donc, à un moment donné, ouvrons le champ politique pour que chacun arrive à faire sa part, d'accord, à faire ses preuves, pour que les populations choisissent librement leur prochain
Merci. On va donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner justement, vous donner la parole. C'est sur le 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom, c'est Johannes. Johannes est parti. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo, cher.
Allez-y.
Merci à vous. J'ai suivi que il n'y a pas d'opposition. Félicitations. La meilleure pédagogie, c'est la répétition. Je me répète. Le régime a montré, ou bien le Togo a montré que la démocratie, c'est les gros bras. Le député de la CDAO, le Sénégalais, dit, en a payé les frais. Hein? Comment dans un pays, au lieu que la démocratie soit la pensée humaine, ça devient la boxe. Les gens n'arrivent pas à se réunir à leur siège. On dit que l'opposition ne fait pas quoi. Qui a peur? Vous savez, écartons tout mauvais esprit qui gère l'unité nationale. Le mauvais esprit, c'est qui? C'est l'opposition, mais c'est le peuple. La position de la 5e République nous le montre. Ce n'est pas parce que l'opposition n'est pas l'Assemblée qu'on a changé la Constitution. On n'a pas consulté le peuple, qui est l'ennemi du pouvoir de la minorité, qui s'accapare des biens de l'État. Donc, en majorité, le peuple est fatigué de la politique autour. Si nous sommes divisés, l'ennemi, c'est le talorant pour nous être. Mais, à l'union, tout est réuni. Qui s'appelle à l'union, la minorité a peur de ce qu'ils veulent au Togolais. Et qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans tout ça là? Et l'opposition dit que quoi? Eh bon, d'un coup, nous mourrons, mais dans la dignité, les gens vont mourir, mais dignement, même s'ils n'ont pas accédé au pouvoir. Mais les gens vont travailler longtemps, je ne sais pas quelle serait leur dignité. Et vous voyez? Donc, partageons bien ce pays-là. Pour que si quelqu'un quitte un jour, qu'il soit digne de quitter ce pays. Je vous remercie.
Merci, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est monsieur Nyamavo. C'est monsieur Maouto, plutôt, voilà.
Oui.
Allez-y.
Bonne année à vous tous. Et monsieur Fumé.
Merci.
Je pense que vous croyez que nous sommes en débat au Togo. Si monsieur Fumé veut faire l'effet d'analyse. Ils croient que nous sommes en droit. Nous sommes en droit du Togo. Les grands électeurs qui ont rédigé la constitution américaine sont les grands électeurs légitimes. Ceux qui ont fait pour le Togo, ils sont illégitimes. Et ça, la différence, quoi? Pour la NSC, là, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que M. Gilbert Barra a dit ça. Il va purger les gens dans NSC. Vous n'avez pas écouté ça? Merci, bonne émission.
Merci pour votre intervention. 90-86-35-91-36-63-75. Allô?
Bonsoir.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, comme un ange au ciel.
C'est Océli.
Le messager de l'amour.
D'accord, allez-y.
Je voulais aller côté marché brûlé, et de faire appel aux autorités et les chefs traditionnels de voir côté spirituel. S'ils peuvent consulter le phare, voir ce qui se passe autour du marché. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Océli, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Kofi.
C'est Monsieur Kofi.
Allez-y.
Oui. Je voulais rebondir sur les propos concernant le parti ANC. Vous savez, vous appartenez à un parti politique et le parti vous place quelque part. Si après, le parti vous demande un retrait, vous faites le retrait, simplement. Vous n'allez pas persister à vouloir rester là-bas parce que c'est juteux, donc voilà, vous faites une désertion, mais il faut d'abord présenter sa démission. Au moins cela. Au moins cette démission. Et quand j'entends dire, voilà, le monsieur, il a fait ci, il a fait ça pour devenir maire, mais quand même, hein, un maire n'est pas nommé. Hein. Un maire, c'est un élu. Hein? Et des fois, quand vous... Je me demande, l'émission même, c'est le corps de la presse, non, ou bien? Le corps de la presse, vos collègues, vous les invitez, ils viennent, ils racontent des ragots, et après, quand on les attaque, ils vont dire c'est leur opinion. Donc c'est leur opinion qu'ils nous écrivent dans leur presse. Sincèrement, ça ne va pas.
Mais monsieur Kofi.
Vous devez les calmer là-bas.
Monsieur,
c'est vous le médiateur.
Monsieur Kofi.
Quand c'est les auditeurs.
Monsieur Kofi. Allez, nous allons recevoir notre auditeur. Monsieur Kofi, nous avons toujours cette libre, enfin, nous donnons l'opportunité à chacun alors de s'exprimer, puisque ce qui se passe ici, c'est que nous avons des sujets de l'actualité. Chacun dit ce qu'il pense alors de ce sujet. Allô?
Bonjour.
Bonjour. Comment vous allez?
Bien, et vous?
Ça va, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est
Magloire de Nyekonakwe.
Monsieur Magloire depuis Nyekonakwe, allez-y.
Bon, je voudrais revenir sur le fait que Jean-Pierre Fabre soit élu maire de la ville de Lomé. C'est juste pour rappeler aux journalistes tout juste à côté de nous ici, après avoir perdu les élections contre Mathieu Kérékou, il se force au gouvernement de sa candidature pour devenir maire de la ville de Cotonou. Mais ça n'a pas été empêché. Donc, je ne vois pas là où Jean-Pierre Fabre a fauté en allant déposer sa candidature pour être maire de la ville de Lomé. En étant maire de la ville de Lomé, bon, il sait prouver qu'il peut gérer la chose publique. Donc, en pouvant gérer Lomé, je crois qu'on pourra gérer le Togo aussi. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Mangola, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Yao Dekunate.
Oui, Monsieur Yao, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce serait intéressant. Allô?
Ok, donc, moi, je vais bondir au niveau des marchés.
Oui, allez-y.
Moi, je propose que tous les sapeurs-pompiers, on n'a qu'à mettre les sapeurs-pompiers dans les grands marchés. Dans les grands marchés, ils ont quand même pouvoir des sapeurs-pompiers prêts pour travailler. À chaque nuit, ils doivent amener un député là-bas prêt pour travailler, prêt pour faire la patrouille à tout autour du marché. Finalement, on va finir par éviter tous les problèmes qui se passent. Merci et bonne émission à vous.
Merci beaucoup, Monsieur Wiao, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Décidément, il n'est plus en ligne. Allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, monsieur Pascal.
Votre nom, c'est...
Isabel Plateau.
Pardon?
Monsieur Koko.
Ah, monsieur Koko.
Oui.
Allez-y.
Je salue tout le monde là-bas.
Oui.
Je vous félicite parce que vous faites du bon boulot. Parce que tout le monde fait.
Merci.
Tout le monde a le droit de donner son avis. Et ma première question est à M. Fumé. Je suis demandé si la 5e République, dont il parle tout le temps et il a toujours défendu, et lorsque nous allons pratiquer la 5e République ou quoi que ce soit, le pays va se développer. Est-ce que selon son avis, et puisqu'il est toujours là pour défendre cette 5e République, est-ce que nous pouvons, le développement va s'amorcer à l'entame de cette 5e République et nous allons trouver à manger, il y aura des gratte-ciels, des échangeurs, c'est-à-dire nous pouvons ressembler au pays de la sous-région? Ça, c'est ma question à M. Firmin. Donc,
d'accord.
Bonne chance à vous.
Merci beaucoup, M. Koku, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, pardon. C'est sur le portable que je vous écoute. Donc, c'est avec le portable là que je vous appelle.
Oui, votre nom, c'est...
Du coup, mais qu'on appelle.
Oui, pardon, c'est...
Non, à propos de... Mon point de vue, et à propos des incendies de Mathieu, là, moi, je disais, j'étais contre ce fléau, parce que, en 2013, là, pour Grand Mathieu et Mathieu de Cara, là, ils ont dit que c'est kérosène. Pas l'enquête, là, ils ont dit que c'est kérosène. Entre moi et vous, qui êtes là-bas, là, est-ce que moi, j'utilisais l'avion? C'est eux qui utilisaient l'avion, non? Et l'enquête, c'est comme ça, jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas lutté contre ce fléau, là. Et par le que, un jour, on va attendre que c'est comme ça que les gens s'apprécient. C'est comme ça que le Parlement s'apprécient. Donc, ils n'ont qu'à lutter pour ça. Ils n'ont qu'à lutter pour ça. Pour la 5e République, là, ils n'ont qu'à annuler ce qu'ils niveau contrôle qu'ils ont fait là. Ils n'ont qu'à annuler. On va aller au référendum. Sinon, il y aura certains pays encore, il y aura plus de temps dans certains pays encore en Afrique. Du tout, au Cameroun, c'est du voir et le Togo. Parce que, et ils ne sont pas en démocratie, ça, c'est la dictature, ça. Et ils ont donné tout notre pays, ils ont donné le pays aux étrangers. Un étranger va parler devant toi qui est un Togolais comme si c'est toi qui es venu chez lui. C'est pas normal. C'est pas normal.
D'accord.
Donc, il faut que
merci.
Les gens d'accueil
Merci.
Et à propos les secteurs recouvrants qui sont en train d'aller participer les fonds sénatoriales. Donc, le Fabre, on dit tout quoi. Donc, le Fabre, l'autre qui est venu pour l'été là, ce n'est pas lui qui a travaillé ici. Il faut que tout après, il se voit avec le président à l'été de février là.
Finalement, on a du mal à écouter notre ami et je pense qu'il a plus approché sa bouche au combiné ou au téléphone. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Allô?
Ah, heureusement que je suis revenu.
Ah, Yohannes, justement.
Bon, d'abord, je vais faire cette petite remarque. Pascal, si j'appelle et je commence mon analyse en disant les individus qui sont en train de faire les analyses sur le plateau là-bas, je pense que tu vas automatiquement m'arrêter.
Ah, mais ça, c'est clair.
Voilà. Alors, je ne vois pas au nom de quoi un journaliste, en parlant des politiques, va utiliser le terme « ces individus-là, finalement, on ne sait plus c'est quoi leur idéologie, tout ça là ». Et ça n'a tiqué personne sur le plateau, notamment toi, le modérateur.
Mais attends, je suis étonné. Individu, utiliser individu, c'est ça?
Ah, mais oui. Ah, moi, je l'ai bien écouté de mes deux oreilles.
Nous allons suivre l'émission.
Voilà.
Et qui l'a dit?
Gabin, dans son analyse, lorsqu'il parlait, vous parlez du sujet de Robert Olympio, en parlant des hommes politiques, il a dit, finalement, on ne sait plus ce que ces individus cherchent. Je pense que vous pouvez réécouter la rediffusion
pour que ça soit
corrigé pour une prochaine fois.
D'accord, ok, merci.
Voilà. Je vais revenir sur le débat que vous avez fait concernant la musique. Vous avez notamment parlé de King Messin, donné d'autres exemples. Moi, j'ai juste l'impression que, vous avez dit, les journalistes d'abord ont dit des choses qui sont réelles, mais beaucoup de choses que vous avez dit, je me dis, vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses concernant la musique. Moi, je vais juste vous donner un exemple. C'est trop facile de citer des noms de dire telle personne n'a pas fait ceci, telle personne n'a pas créé un studio pour. C'est trop facile. Vous savez, il y a une émission dans ce pays, E-Factor, qui est une émission de révélation de talents, de jeunes talents. Je vous envoie aller chercher pourquoi ce concours, après deux ou trois éditions, n'a pas pu perdurer.
Yohannes, dites-nous ce que vous pensez déjà de la chose. Et moi, je pense quand même que ça va plus nous amener à rapidement aller quoi.
Ce que je pense de quoi?
Pardon?
Vous dites ce que je pense de quoi?
Oui, mais justement, parce que quand vous parlez alors de la musique, qu'est-ce que vous pensez alors de cela? C'est-à-dire quand les autres ont fait des analyses, quand vous voulez apporter des contre-analyses, dites-le.
Oui, c'est juste pour dire quoi? En réalité, la musique ou l'art en général dans ce pays manque de soutien. Soyons réalistes, ça manque de soutien. Je vais couper court là-bas. Et concernant les incendies, moi j'étais étonné même que parce que concernant la musique, lorsque vous parliez Gabin avait donné l'exemple de King Messin. Vous avez dit, c'est pas son rôle de créer les orphelins là, tout ça là. J'étais étonné que lorsque vous débattiez de l'incendie, finalement on a dit, bon, on peut consulter King Messin concernant les incendies. Firmin avait dit qu'on peut consulter. Est-ce que consulter King Messin là, est-ce que c'est son rôle? C'est pour dire que parfois, on se dit, bon, soyez conséquents dans vos analyses, en fait.
Mais finalement, Yohannes, il semble que Yohannes n'a pas justement assez de choses quand même à nous dire. Merci Yohannes pour votre intervention. Nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Mais ce que je voudrais quand même faire savoir, c'est que, allez, on donne la parole aux uns aux autres pour qu'ils s'expriment aussi sur les sujets donnés. Votre opinion, parce que nous avons parlé justement, nous n'avons pas la science infuse.
Ah, bien sûr.
Et quand nous venons, c'est pour débattre des sujets, c'est pour analyser des sujets. Et ces sujets sont des sujets alors de l'actualité. On a juste besoin alors de ce que vous pensez aussi de ces différents sujets et même aussi peut-être de nos analyses, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez alors de tout? que de venir s'attaquer à qui que ce soit alors sur le plateau. Ce n'est pas ça aussi notre rôle, parce que, alors moi je le dis souvent, quand quelqu'un, je suis là en tant qu'arbitre, et quand quelqu'un veut s'attaquer peut-être alors à soit à un journaliste ou à un auditeur, je ne serai pas d'accord. Ça, c'est mon rôle quand même alors de réguler alors le débat pour que tout aille alors dans les normes. Et c'est pour cela que nous essayons quand même de faire d'une manière ou d'une autre ce que nous pouvons faire pour que le débat soit aussi un débat sain et un débat crédible plutôt à écouter. Alors, cher confrère, alors Gabin, d'abord, vous avez écouté les uns et les autres. On fait un dernier tour de table et clôturer l'émission.
Premièrement, je pense que M. Johannes nous a très mal saisi. Il n'a pas bien écouté l'émission. À quoi moment on a eu à traiter quelqu'un d'individu, encore que individu n'est pas une insulte, à ce que je sache. Et puis sur le cas de Kim Vincent, on n'a pas évoqué Kim Vincent dans le cadre des incendies. Ce n'est pas du tout son rôle. Je ne sais pas à quel moment il fait la coordination
entre incendies. Il y a Firmé qui
Firmé a donné un exemple.
Un exemple quand on parlait de l'état physique. Voilà. Et là, il disait que oui, il semble que Kim Vincent également dans ce domaine. Oui. Donc il parlait de la consultation de Kim Vincent.
Donc ça relève pratiquement d'un autre aspect. Bon, moi, nous sommes en début d'année et aux auditeurs, je leur présente mes meilleurs voeux. Et aux autorités aussi, je leur présente mes meilleurs voeux vivement que bon, le champ politique soit ouvert et que bon, nous puissions vivre dans un pays où tout le monde puisse rêver de devenir peut-être président du Conseil des ministres un jour.
D'accord. Fémin ?
Moi, c'est juste deux petites choses. La première chose, c'est pour répondre à celui qui me posait la question de savoir si la Constitution va nous permettre de construire des routes. Mais ce qui peut développer un État sont les citoyens. Si lui aussi qui me pose cette question-là, s'il arrive à bien travailler, à être sérieux dans ce qu'il est en train de faire, à payer les impôts, à payer les taxes comme cela le demande, moi je pense que si tout le monde arrive à faire ça, on va devenir la Chine. Ce n'est pas la constitution chinoise qui construit la Chine, ce sont les Chinois qui construisent la Chine. S'il revient aux Togolais de se dire on veut un Togo moderne, on veut un Togo développé. Les autorités sont là pour nous donner des orientations, pour élaborer des projets dans lesquels nous allons nous inscrire. Donc, ce que nous demandons, c'est que ces autorités-là aient toujours une grande vision pour notre cher pays. La deuxième chose, c'est toujours par rapport à la Constitution. Vous savez, le 6 mai, c'est dans quelques jours. Or, nous avons assez d'institutions à mettre en place. On n'a pas encore le Sénat. On a eu les élections sénatoriales le 15. Après, on aura la présidence du Conseil. On aura la présidence de la République. On aura le Conseil d'État. On aura le Conseil économique, social et environnemental. On aura le protecteur des citoyens. On aura la Cour de cassation, le Conseil d'État. On aura la nouvelle HAC qu'on appelle la Haute Autorité de la Communication de l'Audiovisuel Numérique. Donc on aura encore d'autres institutions à mettre en place. Moi, je me demande si on a suffisamment de temps. Alors, sur ce point, moi, je demanderai à nos autorités d'aller un peu plus vite pour ne pas sortir du délai, parce que l'article 95 dit explicitement que les institutions de la 5e République doivent être mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois. 12 mois, c'est le 6 mai, c'est le 5 mai ou le 6 mai 2025. Bonne année à tous. Bonne année à tous ceux qui nous ont appelés. Bonne année à tous qui nous
suivent. Merci, Fibin. Oui, Koufi.
Oui, moi, j'ai une seule chose à dire. Je vais revenir sur les incendies des marchés pour proposer au gouvernement, tout en attendant de moderniser ou bien d'avoir des structures modernes au niveau de nos marchés, pourquoi ne pas installer des caméras au niveau de tous les marchés pour permettre à ce qu'on ait une surveillance accrue de tout ce qui se passe le jour et la nuit. Cela nous aidera aussi à pouvoir faire un diagnostic réel de ce qui se passe.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Annani, d'être passé dans cette émission. C'est Gabin Adaro, merci d'être
beaucoup
passé dans cette émission. Firmé Tekouabo, merci d'être passé pour votre contribution, surtout à cette émission Club de la Presse.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour contribuer aussi à votre manière à cette émission et à travers vos réflexions. Merci pour ce que vous faites et également pour que ce débat ait toujours son sens. Merci. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Thanks.